Alors ce soir, donc, nous allons aborder un sujet clé, parce que nous voyons beaucoup d'objets du tabernacle, mais ce soir nous allons voir celui qui fait fonctionner le tabernacle, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui, bien sûr, il n'est pas tout seul, hein, il a toute sa famille avec lui, la tribu des Lévites, qui ont la charge de s'occuper du bon fonctionnement du tabernacle. Et le souverain sacrificateur est un personnage clé, ou combien, parce que vraiment, il est celui qui permet les sacrifices d'avoir lieu, qui entretient le chandelier, les pains de la table, tel des parfums. Et c'est lui qui va venir dans la présence de Dieu avec le sang des animaux pour être en quelque sorte le médiateur entre le peuple, le pécheur, et Dieu qui est parfait. Et donc c'est cette personne, ce personnage que l'on va voir ce soir, et qui est un encouragement puissant, parce que chaque phrase, chaque mot qui le concerne, concerne notre Seigneur, et nous concerne aussi à nous directement. Alors, je propose que le premier texte que l'on regarde, qui est assez magistral sur ce sujet, c'est Lévitique 16. Lévitique chapitre 16. Et qui va introduire l'acte le plus important, puisque le sacrificateur fait beaucoup de choses, dans le service, bien sûr. Mais il y a un acte absolument particulier que nous allons voir, et dans Lévitique 16, jusqu'à ce que les choses se mettent en place, d'abord le Seigneur donne un avertissement quand il dit: l'Éternel parle à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Et donc, le Seigneur introduit l'idée qu'on ne peut pas venir vers lui n'importe comment. Voici de quelle manière entrera dans le sanctuaire Aaron. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Il portera sur son corps des caleçons de fin lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël debout pour le sacrifice d'expiation. Alors, les vêtements sacrés, on va y revenir dans quelques instants. Alors là, il y a des gravures, hein, vous les verrez. Donc, c'était quelque chose d'assez magistral, impressionnant. Parce que on verra un peu plus tard dans le détail qu'il y avait aussi des pierres précieuses qui étaient sur sa poitrine et sur ses épaules. Hein. Et donc c'était toute une panoplie avec beaucoup de symboles et beaucoup de leçons derrière. Maintenant, s'agissant de venir dans la présence de Dieu, donc dans le lieu très saint, là où était le Seigneur, dans vraiment le sanctuaire, ou le cœur du sanctuaire, alors il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'actes, et il devait faire des sacrifices. Et il y a un sacrifice assez étonnant. Aaron offrira un taureau expiatoire, il fera l'expiation pour lui, pour sa maison. Il prendra deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice. Donc là, il y a deux boucs, l'un va mourir, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors je vais vous dire dans un instant ce que peut vouloir dire Azazel, mais je ne veux pas le faire de suite, sauf ceux qui ont des bibles avec des notes, parce qu'il y a une expression que vous connaissez tous, et vous ne voyez peut-être pas que l'origine est là. Hein? Aaron offrira son taureau d'expiation, et il fera expiation pour lui, pour sa maison, il égorgera son taureau expiatoire. Donc, voilà, il y a toutes sortes de détails, avec le brasier, avec le parfum, avec le sang qui est placé, avec le doigt du sacrificateur, devant le propitiatoire, c'est dans le lieu très simple, sur l'arche. Il égorgera le bouc expiatoire, il emportera le sang au-delà du voile. Et il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang des taureaux. Il y avait plusieurs sacrifices, hein, dont tout était sanctifié. Hein. Et lorsque verset 20, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Parce qu'on a toujours ces deux boucs. Hein. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette tâche. Et le bouc disparaîtra, quoi, et emportera avec lui toutes les iniquités dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. Dans ce jour d'expiation, ce jour où le sacrificateur va arriver dans le lieu très saint avec le sang d'animaux qui ont été sacrifiés, où il y a eu tout un cérémonial, hein. On fera verset 30, c'est un verset clé, hein, qui résume la chose. En ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, il y avait un acte comme ça. Hein, et nous découvrons, verset 34, que cet acte solennel où le sacrificateur faisait en sorte que tous les péchés disparaissaient se faisait une fois par an.
C'est
le
jour du grand pardon.
Voilà, et donc les Juifs l'appellent le jour. Le jour. Yom Kippour, donc le jour du pardon. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. La fête du grand pardon. Et ça vient de là, vous voyez. Et le mot expiation dans l'Ancien Testament avait le sens de couvrir, de cacher en fait. Il fallait que le péché soit caché, qu'il ne soit plus vu. Donc c'est un mot intéressant parce que c'est une façon d'isoler, de ôter de la vue, hein, et que ce péché ne soit pas présent et ne nous atteigne pas. D'ailleurs, c'est le même mot qui est utilisé pour l'arche de Noé. Vous savez que Noé a fait une arche, mais cette arche, elle a flotté. Et vous savez pourquoi elle a flotté? Et oui, parce qu'elle était étanche. Donc, c'est pas le tout de couper du bois, de les mettre ensemble. Il fallait l'étanche. Donc, elle a été enduite. Il y a une bois de l'enfer. Elle a été enduite de bitume. En dedans et en dehors. Voilà. Et enduire, c'est le même mot, cafard. K-A-P-H-A-R, qui est traduit par expiation.
C'est caché, quoi.
Voilà.
Couvrir,
caché, et isolé, quoi. Complètement isolé. Voilà. Et donc, alors, est-ce que tout le monde a découvert le sens du mot Azazel? Et voilà, alors, ceux qui ont une Bible scophile,
Non, je ne sais pas.
Alors, j'ai pu répondre, tu vois. Alors, tu verras là, Azazel, terme signifiant retranchement total ou émissaire. Et qui n'a pas entendu l'expression bouc émissaire? Mais le bouc émissaire, c'est lui, ça vient de là. Donc, le jour du grand pardon aussi, il y avait cette cérémonie. Deux boucs étaient choisis, l'un était tué, et donc son sang était présenté dans le Saint des Saints, et l'autre bouc, on posait les mains sur lui et on confessait tous les péchés. Et après il était chassé, et il disparaissait avec les péchés.
Ça m'a toujours étonné pourquoi on lâchait le péché dans la nature. Et pas qu'on ne mettait pas ce péché sur celui qui était tué.
Sur celui qui était tué, ouais.
Et c'est que celui qui est tué, il sert de...
Alors...
D'offrande,
ouais. Et...
En fait, certainement, ce que les deux boucs représentent tout à fait les deux aspects de la mort de Christ. L'un meurt et l'autre ressuscite. Quoique ce bouc qui part dans le désert, dans une terre désolée. Mais Christ, lui, il part au ciel, donc c'est pas tout à fait pareil. Dans ce sens-là. Mais c'est lui qui emporte nos péchés, quoi, et qui les fait disparaître totalement. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai simplement vu les deux facettes du sacrifice de Christ, un qui meurt et un qui vit.
Voilà. Peut-être aussi une image pour exprimer que les péchés s'éloignent et qu'on s'en souvient plus, comme la Bible ne s'en souvient plus. Quoi.
Voilà. Et qui seront impossibles à retrouver. C'est ça aussi l'idée.
Est-ce que ça, moi je me ressens comme une nécessité de la confession. Si on se Jésus-Christ a pris notre péché, mais si on ne se confesse pas, on peut pas être sauvé, même si Jésus-Christ est mort pour nous.
Tout à fait.
Puisque sa fonction, c'est en fait que le sacrificateur confesse les péchés. Moi, je le prends comme ça.
Mais à un moment donné, c'est vrai que il fallait s'identifier avec l'animal et déposer sur lui le péché. Donc, il y avait un acte d'identification. Et donc, quand le sacrificateur faisait cela, il posait ses deux mains sur la tête. Donc, c'est une des premières fois qu'on voit l'imposition des mains, qui est toujours dans la Bible une reconnaissance. C'est un acte de reconnaissance. Donc, on le reconnaît comme c'est lui qui va prendre nos péchés, il va disparaître avec.
Il y a peut-être aussi une explication par rapport à ce que j'ai dit à demander.
Oui.
Parce que c'est le bouc pour l'Éternel, sur lequel il n'est pas posé les péchés. Ça donne aussi l'aspect de Christ.
De pureté.
De Christ qui se donne entièrement à la volonté de son Père. Mais d'une manière tout à fait parfaite. Et sans qu'il soit question du péché. La question du péché, c'est avec les hommes, pas avec Dieu le Père. Et donc, c'est le bouc qui était pour les hommes, entre guillemets, pas celui pour l'Éternel, mais celui pour les hommes, qui devait rapporter les péchés dans le désert. Parce que c'est celui-là justement qui a porté le péché des hommes. Et Christ, par rapport à son Père, en fait, il était sans péché devant son Père. Il n'a pas porté les péchés devant son Père. Il a porté les péchés loin de son Père. Dans un lieu désolé où il est impossible de les retrouver. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que c'est sur le bouc qu'on chasse qu'il est posé les toutes les péchés.
Oui, parce que là, on va voir des textes dans l'hébreu qui nous montrent que notre sacrificateur est entré dans un autre sanctuaire, plus grand et plus parfait, non pas avec le sang du bouc, mais avec son propre sang. Donc, c'est là. Le Seigneur joue un rôle d'intercesseur et permet. Alors oui, il y a de belles images sur le pardon dans l'Ancien Testament. Il a mis nos péchés sous ses pieds, derrière son dos. Autant l'Orient était loin de l'Occident, autant il est loin de nous. Je dis c'est quand nos transgressions, au fond de la mer aussi.
C'est intéressant aussi le rôle de celui qui devait chasser le groupe pour pas qu'il revienne. Parce
que oui, 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 chasser.
On voulait plus voir le péché, il fallait pas qu'il revienne. Il était là pour le chasser, quoi.
Oui, il y a quelqu'un qui était chargé de faire ça. Hein.
Il y avait tout ce groupe qui ne sait pas mourir.
Ben, à l'époque, il était condamné à mort, dans un sens. S'il partait vivant, il y avait peu de chance. Mais l'idée, c'est qu'il soit introuvable.
Introuvable.
Et ayant reçu sur lui les péchés.
Ouais.
Et donc, en Christ, nos péchés sont introuvables.
Ouais.
C'est assez extraordinaire. Parce que on peut se demander comment Dieu fait. Même nous, même dans une démarche de pardon, on n'oublie pas. Souvent, on a confondu, enfin, c'est un autre thème de la vie chrétienne intéressant, c'est juste une courte parenthèse. On pense que il faut, pour arriver à pardonner, oublier. Mais quand vous réfléchissez à ça, c'est absolument impossible. Et on n'est pas. Même Paul dira, je vous rappelle les mauvais actes qu'il commet. Alors, un apôtre qui dit ça, il n'oublie pas. Donc, et même c'est impossible, même si on est complètement apaisé, en dehors de toute, déstabilisation personnelle, on se souvient des événements qui nous sont arrivés. Donc, mais en Christ, nos péchés vont être oubliés. Et il va les oublier. Je ne me souviendrai plus, dit le Seigneur. C'est quelque chose
de extraordinaire. C'est comme si il était frappé d'amnésie.
Il a fait ça avec ça.
Mais il a décidé de ne plus avoir ce moment.
Alors il faut savoir que. Il faut savoir qu'une fois par an, donc les Juifs fêtent le Yom Kippour, c'est la plus grande fête religieuse, c'est sûr. Donc ils font cela et ils reconnaissent l'importance du sacrifice. Et là, ils se disent, nous n'avons pas de temps, on n'a rien pour le faire. Oui.
Il n'y a pas des Juifs orthodoxes qui le font en Israël quand même.
Alors ce qu'ils font, certaines personnes offrent un coq. Donc, quand ils se rassemblent en famille, la veille du Yom Kippour, ils font tournoyer autour de leur tête un coq et ils récitent à ce moment-là des textes bibliques. Ils disent voilà, cet animal va prendre nos péchés. Donc, ils ont remplacé le bouc par ce coq. Hein? C'est une pratique que certains juifs font, mais que d'autres désapprouvent. Hein. C'est pas général. Hein. Ils recherchent des volailles de couleur blanche, de préférence. Voilà. En référence à Isaïe 1, si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a le désir de refaire des sacrifices, et certains. Extrémistes en font, ils font des sacrifices. C'est déjà arrivé. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'avec le sacrifice, il faut le sacrificateur. Et donc, le sacrificateur et le Cohen, c'est. Tous les Juifs qui s'appellent Cohen sont d'origine lévite et sont de la famille qui pouvait prétendre à devenir sacrificateur. Alors on va regarder Hébreux. C'est intéressant parce que là. Chapitre 7 déjà. Chapitre 7. Donc les sacrificateurs, de génération en génération, c'était toujours les mêmes familles, assuraient ce service. Et Hébreux relève des angles très intéressants. Aussi prestigieux que soit cet homme, Aaron, une des premières différences avec Christ, c'est que il allait mourir. Et regardez le verset 23, si quelqu'un veut lire les versets 23 et 24. 7.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.
Voilà. Donc Christ possède un sacerdoce qui ne peut pas se transmettre. Et quand on réfléchit à cette phrase qui n'est pas transmissible, mais ça a plein de conséquences doctrinales sur des gens qui usurpent cette identité et qui vont justement jouer un peu la place du Seigneur. Parce qu'il est vivant, Christ est vivant. Les sacrificateurs se succédaient parce qu'ils mouraient les uns après les autres, évidemment. Mais Christ est ressuscité. Et ce que lui fait pour nos péchés, c'est pas transmissible. Il n'y a que lui. Alors, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et là, c'est tout d'un coup, on voit l'impact étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé des cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, alors en plus du fait qu'ils soient mortels, tout d'un coup il y a une autre petite pointe sur les sacrificateurs, qui n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leur propre péché. Alors ça c'est notre grande différence. Ensuite, pour ceux du peuple. Mais le Seigneur a offert son sacrifice, le sacrifice de sa vie, pour les péchés du peuple, en s'offrant lui-même.
On voit aussi la divinité de Christ.
Aussi, hein. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Donc, dans l'Ancien Testament, la loi permettait d'arriver au pardon, mais quand même, elle était inférieure à celle du Nouveau Testament, puisque les sacrificateurs étaient mortels, puisqu'ils étaient imparfaits, puisqu'ils avaient leur faiblesse.
Il fallait le faire tous les ans.
Et il fallait le faire, hein, renouveler tout ça tous les ans, c'est vrai. Alors, chapitre 8, le point principal de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Donc, le véritable tabernacle est au ciel, qui a été dressé par le Seigneur et non par le monde. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Et Christ n'est pas arrivé au ciel les mains vides. Loin de là. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui représentent des offrandes selon la loi. Et le ministère de Christ commence vraiment au ciel. Il célèbre un culte, image, donc tant qu'il y avait la loi et le tabernacle, c'était une image des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut dit-il de faire tout d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Alors il est possible que dans le ciel, il y ait des similitudes avec ce que Moïse a vu, et que ce qui a été construit dans le tabernacle est une pâle figure de certaines choses que l'on retrouvera au ciel. Et ce qui est important aussi, c'est de considérer que tout ce qui a été fait par Moïse, par la loi, dans le tabernacle, le verset 7 le dit, il y avait des défauts. Et il n'aurait pas été question de la remplacer par autre chose si tout cela avait été sans défaut. Voilà. Au chapitre 9, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre, ce que nous sommes en train d'étudier, le sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Donc vous voyez comment le livre aux Hébreux est vraiment le commentaire du sujet du tabernacle. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, il y avait le chandelier, la table et la proposition. Et puis se trouvait après, dans la partie du tabernacle, le saint des saints. Renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Alors souvent on s'est demandé, ce parfum d'or, il était où? Est-ce qu'il était en deçà du voile ou au-delà?
L'encensoir.
Mais il y a l'encensoir qui est un complément. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Donc là, c'est la description de ce que nous verrons, l'arche. Et au-dessus de l'arche, les chérubins. Donc, voilà. Donc là, l'auteur dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus.
Verset
5, chapitre 8.
On va reparler des choses qu'on a déjà décrites.
Donc, c'est là où on voit bien, dans la verset 6, dans la première partie, les sacrificateurs pouvaient y entrer tout le temps. Mais dans la seconde partie, seule une fois par an, le sacrificateur y entrait. Donc, c'est ce que nous venons d'apprendre avec Lévitique 16. Une fois par an, donc le jour du grand pardon. Et le fait comme ça, que ça ne soit qu'une fois par an, ça montrait aussi, le Saint-Esprit nous enseigne que le chemin, et là ça devient vraiment précieux, le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour les temps présents. Et au verset 11, Christ est venu comme un sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il est entré une fois pour toutes, parce que lui n'y va pas une fois par an. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, nous avons vu les deux boucs, donc leur misère et les veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et si le sang des taureaux, des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors, vous voyez, tous ces versets deviennent plus clairs, hein, Et le but de la purification, c'est de servir. On parle du salut pour être pardonné, pour avoir la vie éternelle. Mais il y a très souvent des passages dans le Nouveau Testament que le sang de Christ nous purifie pour servir. Alors, on fait moins l'association dessus. Souvent, lui, soyez purifiés pour être sauvés et pour ne pas être perdus. Mais c'est aussi dans la Thessaloniciens qu'il est écrit, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant. Voilà. Et alors, bien sûr, on peut toujours continuer à lire, hein, ça ne fait que commenter et éclairer. Hein. Donc, un des passages aussi merveilleux, c'est peut-être quelqu'un peut dire, Hébreux 10, 19, qui est absolument magnifique.
Ainsi donc, pas puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle route vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé du mot pur.
Voilà. Alors, vous rendez compte, nous, par Christ, on peut entrer dans le lieu très saint constamment. Même une fois par an, le sacrificateur ne pouvait pas dire à un copain, bien, je vais t'emmener avec moi, reste à côté de moi et je vais t'emmener. Il ne pouvait même pas permettre à quelqu'un de voir le lieu très saint. Alors, il s'approchait pour apporter le sang et pour permettre le pardon de son copain pécheur et de ses péchés à lui. Mais en aucun cas, il aurait pu se permettre d'inviter sa famille et des amis à venir visiter les lieux. Mais par Christ, Christ est entré donc une fois pour toutes, mais nous, chaque fois que nous prions et que nous nous tournons vers Dieu, c'est dans ce lieu que nous arrivons. Donc c'est assez extraordinaire comme privilège.
Ça apporte aussi l'importance de ne pas se purifier juste une fois, mais de venir continuellement.
Oui.
Et c'est vrai qu'on pourrait, appuyer là-dessus.
Je pense que quand on vient continuellement,
oui,
on perd l'habitude. Il y a des choses qui disparaissent. Mm. On ne garde pas certaines casseroles.
Mmh. Non, mais oui.
Parfois, ce qu'on fait, ce que des chrétiens font, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent venir, pas porter tout bien, et puis ils repartent, et puis se rechargent de péché pendant des mois, et puis ils reviennent. Mais, bien sûr, le Seigneur pardonne, mais le Seigneur ne peut pas, pour ces personnes-là, développer quelque chose de profond. Mais celui qui vient tous les jours, il prend de plus en plus de distance avec le péché, parce qu'il est de plus en plus mal à l'aise. C'est comme quelqu'un qui a des vêtements propres. Hein. Imaginez, vous y avez un costume peut-être blanc, tout propre. La première tâche, vous la voyez, enfin, même si c'est pas blanc, un habit tout neuf, tout ça, vous le voyez de suite dès que ça se salit. Hein. Mais si vous l'avez sur vous tous les jours, il arrive un moment, bon, une tâche de plus, où vous voyez pas qu'elle est arrivée. Mais celui qui vient continuellement devant le Seigneur, il voit de suite. Et ça lui donne aussi un discernement nouveau sur les choses. Alors, je vous propose de regarder maintenant Exode 28. Exode 28. Donc là, nous avons les vêtements sacrés pour marquer sa dignité, dit le verset 2, et pour lui servir de parure. Donc, le souverain sacrificateur avait vraiment une dignité particulière dans ce service. Et si ce sacrificateur était éclatant de dignité quand il arrive dans le sanctuaire, à plus forte raison, dans un ministère plus excellent, la gloire de Christ assis à la droite du Père est glorieuse, en contraste avec l'ignominie et l'humiliation de la croix. C'est sûr. Et donc nous avons là un ouvrage remarquable qui parlera à tous ceux qui sont avides, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, ils feront des vêtements, parce que c'était une œuvre d'art. Donc il y avait un pectoral, un éphod, une aurore, une tunique, une tiare. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, tout ça, vous avez des images ici hein, que vous pouvez voir. Et donc, il y avait toutes les couleurs qui existaient dans le tabernacle, que nous avons eu l'occasion de voir, le bleu, le pourpre, le cramoisi, le fin lin. Donc, il y aura des épaulettes, un effort avec des épaulettes et un pectoral, c'est-à-dire que sur les épaules et sur la poitrine, donc il y avait un grand carré et il y avait 12 pierres précieuses. Et sur chaque pierre était gravé le nom d'une tribu d'Israël. Sur une pierre précieuse. Hein. Sur une précieuse. Voilà. Et donc, au verset 29 et 30, c'est peut-être si vous voulez le résumé, l'application de tous ces détails. Hein. Quelqu'un veut lire les versets 29 et 30.
Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel.
Très bien, très bien. Urim et Thummim veut dire perfection et vérité. Donc ça permettait de faire des choix aussi. Et donc vous vous rendez compte que chaque fois que le sacrificateur arrivait devant le Seigneur voyait le sacrificateur arriver et il voyait les noms du peuple de Dieu sur des pierres précieuses. Et donc, j'aime beaucoup cette expression que j'ai soulignée dans toutes mes livres, il portera sur son cœur, ou il portera sur ses épaules. En fait, c'est notre double position en Christ. On est porté par le Seigneur, la force, les épaules c'est la force, et le cœur c'est l'affection. On est doublement porté par le Seigneur. Et ce que je me suis souvent dit, il n'est jamais écrit la Bible pas dans l'Ancien Testament, parce que souvent Israël était loin, à là aujourd'hui, la tribu d'Issachar, la tribu de Nephtali, c'est pas la peine, je les enlève, ils sont pas dignes, ils vont pas venir devant la présence de Dieu. Ou parfois, il y a eu la révolte des fils de Corée, tout ça, mais quel que soit l'état du peuple, ils étaient toujours devant Dieu sous la forme de pierres précieuses. Et là aussi, tu parles d'assurance du salut et de la solidité du salut, c'est absolument remarquable cette situation. Quand le Seigneur dit « Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie », alors en Christ, notre nom ne peut pas s'effacer. Il est plus qu'un trésor. Et donc, il y avait sur le front du sacrificateur où était gravé « Sainteté à l'Éternel ». Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes les saintes offrandes. N'est-ce pas ? Donc, d'un côté, il y a la sainteté à l'Éternel, et en même temps, il y a la position du peuple de Dieu. Et j'aime ce verset, Ésaïe 49, 16. Ésaïe 49, 16. Alors, qui dit... Alors, si c'est bien la même production... Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc, cette idée d'être gravé dans le cœur de Dieu, et c'est quelque chose qui ne peut pas s'effacer. Donc, on a souvent un sacrificateur dans le Seigneur, et si le Seigneur est en quelque sorte notre avant céleste, il porte aussi des vêtements consacrés. Et donc, Dans Lévitique 16, il est important de noter, on revoit qu'il venait donc régulièrement, selon un protocole particulier. Il y avait aussi dans les... je retrouve le verset dans Exode 28, il y avait des étoffes, les faux, les pierres. Voilà, au verset 31, tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture sera tout autour embortissée. Verset 33, tu mettras autour de la bordure en bas des grenades pourpres et cramoisies, entremêlées de clochettes et d'or.
Rien de ce qu'il dit.
Hein?
Non.
Vous ne trouvez pas
tes pieds à
Ah, toujours l'Exode 28.
Exode,
verset 31.
Voilà. Et le sacrificateur avait des petites clochettes intercalées avec des grenades. Donc, Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire. Et regardez la fin du verset 35, qui dit quoi ? On entendra le son des clochettes.
Et il ne mourra point.
Et oui, parce que, au fond, c'était un moment solennel, et tant que le peuple pouvait entendre, tant qu'ils entendaient les clochettes, ça veut dire
qu'il est vivant.
Qu'il est vivant et que les péchés sont pardonnés.
Mais en fait, il avait aussi un fil, enfin, on lui attachait un fil au pied, parce que si on mourait dans le lieu très saint,
il fallait le sortir.
Il fallait le sortir, mais comment le sortir puisqu'on n'a pas le droit d'y rentrer, d'en tirer par le fil.
Tout à fait. Tout à fait.
C'était Zacharie qui était, quand il a eu sa vision, c'est ça, le père de Jean-Baptiste.
Oui, ça oui.
Il est resté longtemps, il ne pouvait pas rentrer non plus.
Ouais.
Il savait qu'il y avait quelque chose qui
se
passait
quand
ça a été
nué.
Tout à fait. Et il avait aussi des grenades. Alors, des petites grenades qui devaient être accrochées, qui ornaient quoi, le bas de la tunique, tout à fait en même temps, des petites clochettes et des petites grenades. Alors, un petit point d'archéologie, en 79, un Français dans les Antiquités de Jérusalem a trouvé une grenade vieille de 2700 ans. Donc cette grenade fait 4 cm avec une inscription qui appartient, alors on peut lire appartient au temple de Yahvé. Et qui a 2700 ans. Donc cette grenade, comme je lis beaucoup de magazines et je déchire beaucoup de choses, je ne sais plus dans quel magazine, mais j'avais trouvé toute la documentation sur cette fameuse petite grenade. On n'en est pas sûr, hein, attention, on n'est pas sûr. Mais il se pourrait que ce soit un élément d'ornement du sacrificateur. Puisque c'était des petites grenades et c'était l'inscription là que l'on voit, c'est tant qu'il y avait. Donc il y avait une destination dans le service du temple. Hein. Donc il y a toute son histoire là où ça a été trouvé et tout dans les. Voilà, je ne sais plus quel magazine c'est souvent.
Ça ressemble pas à une
grenade. Je sais. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que. Voilà, donc, certains contestent, mais non, ça ne peut pas être. Mais bon, on a quand même. On sait qu'elle a 2700 ans. Il y a une forte probabilité, c'est intéressant. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais vous partager aussi, c'est que il est dit qu'il fera, dans Lévitique 16, il devait faire aussi l'aspersion du sang. Hein. Donc, il devait, soit placer avec son doigt, soit faire l'aspersion du sang. Donc, par exemple, dans le nombre 19.4, le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera cette l'aspersion sur le devant du tabernacle. Donc, chaque fois qu'il fallait purifier quelque chose, il trempait avec le doigt et il faisait une aspersion. Donc, c'était le geste qui permet la sanctification. Et quand on voit Lévitique 16, c'est un mot qu'on retrouve aussi, et c'était un geste du souverain sacrificateur.
Le 4, il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang.
Ça va là, les deux modernes, là ? Toutes les deux doivent être modernes.
Non, parce qu'elle est datée dans Lévitique, alors je lui dis c'est dans Nombre.
Ah, oui, alors bon, il y en a partout. Hein. Je vous ai cité comme ça, Nombre 19-14.
Mais dans Lévitique aussi, c'est marqué.
Mais c'est marqué dans Lévitique un peu partout. Alors maintenant, nous allons aller dans Ésaïe 52. Ésaïe 52, c'est le passage, il y a plusieurs cantiques, il y a 4 ou 5 cantiques dans Ésaïe qui préparent la venue de Christ et son sacrifice. Et donc le serviteur dans Ésaïe 52-53 représente Jésus-Christ. Et l'agonie qu'il va connaître, et vous connaissez très bien ces versets, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc l'application d'Ésaïe 53, c'est vraiment Jésus-Christ. Donc je sais que les Juifs disent, mais non, ça peut être Christ. Enfin, c'est tellement frappant comme ça ressemble au... Non, c'est le peuple d'Israël qui a souffert, c'est pas
Christ. Oui, je remplace ça par le peuple d'Israël.
Oui.
C'est pas ça qu'ils font.
Et oui, ils évitent à tout prix de le destiner à Christ, hein. Évidemment. Et d'ailleurs, d'où l'interpellation du Seigneur, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et au fond, l'acte de Jésus-Christ de nous donner sa vie, c'est le bras de l'Éternel, qui n'est pas trop court, d'ailleurs c'est Ésaïe qui le dit aussi, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Donc il est venu jusqu'à nous. Et donc méprisé, abandonné des hommes, voilà, nous l'avons dédaigné, frappé de Dieu, il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et les souffrances d'Israël, aussi importantes soient-elles, ne nous donnent pas le pardon. C'est pas du tout les souffrances d'un peuple qui donnent le pardon, c'est les souffrances de Christ. Mais on va au chapitre 52, verset 13, il est dit, voici mon serviteur. Et c'est vrai que le Seigneur a ce qualificatif de serviteur. C'est un qualificatif important. Il montera, il s'élèvera bien haut. Donc, il s'élève bien haut, ça veut dire qu'il est allé jusque dans le sanctuaire céleste. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Donc, Christ, quand il a donné sa vie, il a été frappé. Alors, quand vous lisez attentivement l'Évangile, on voit qu'il a été frappé au visage plusieurs fois. Et il devait être tumifié. Et toutes les peintures qui représentent juste un Christ avec la couronne d'épines, les yeux ont été fermés, c'est faux. Il devait être pratiquement défiguré et tunifié. Parce que, non, on l'a frappé, on lui donnait des coups de poing. On l'a, je crois qu'on a mis un sac sur la tête, on donnait des coups de poing. Et on lui disait, puisque Voilà, t'es si fort, dis-nous qui t'a frappé. Tant son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même qu'il a été un sujet d'effroi, il sera pour beaucoup de peuples un sujet
de joie.
De joie. Voilà. Et c'est un sujet de joie qu'il faut souligner. Quand il dit un sujet de joie.
Mais
vous, vous avez, en tout cas, c'est quoi la traduction?
Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et dans son apparence n'avait plus rien d'humain, car il accomplira le rite de l'aspersion pour voilà. Le peuple nombreux.
Et c'est là où je veux en venir. Sujet de joie, c'est la traduction d'aspersion.
Oui. En fait, c'est le même mot.
C'est le même mot.
Aspersion.
Et donc la traduction du semeur est beaucoup plus. Enfin, c'est plus littéral. En fait. Et l'aspersion et la joie, ça va ensemble. Il n'y a pas de joie sans avoir été purifié. Donc, le mot hébreu, c'est Naza. N-A-Z-A-H. Naza. Qui aspersion. Et qui... Alors, 21 fois dans la Bible, c'est traduit par aspersion. Et une fois, bon, ce nom a décidé de le traduire par joie. Alors, je ne sais pas comment il a tourné ça dans sa tête, mais il a... Je ne sais pas s'il y a d'autres traductions.
Il y a d'autres textes qui le traduisent comme une joie.
Non, c'est le seul. Tous les autres, c'est aspersion.
Mais il est une joie, donc il a faisait l'aspersion. En fait, c'est le même mot que la joie.
Oui.
Une huile de joie. L'huile d'aspersion est une huile de joie.
Et là, parce qu'il est dit, il sera pour beaucoup de peuples. Beaucoup de peuples. Et dans 1 Pierre 1, verset 1 et 2, il est écrit, à ceux qui sont étrangers et dispersés, qui participent à l'aspersion de Christ.
Ouais.
Donc pour beaucoup de peuples. Et Pierre confirme, les étrangers, les dispersés participent aussi à l'aspersion au sujet de joie. Donc ça, c'est ce que nous vivons.
Dans l'Ancien Testament, le mot joie apparaît plusieurs fois, c'est qui le mot alors. C'est pas l'hasard.
Il faut vérifier, je ne sais plus le mot joie du matin. Quel mot c'est, on peut le savoir assez rapidement même. Et quand il sera devant les rois de la terre fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils n'avaient pas été à la compter, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Donc, il est vrai que quand il apparaîtra, alors il sera devant les rois de la terre, avec toute l'autorité légitime, d'autant qu'il a été un sujet d'effroi quand même. Et devant lui, les rois de la terre fermeront la bouche. Tous les rois fermeront la bouche. On est comme des politiciens qui ne peuvent pas. C'est assez étonnant. Ce sont ces mêmes rois, si vous regardez le psaume 2, ce sont ces mêmes rois qui se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son roi, contre celui qui a été envoyé. Voilà. Mais pour être complet, nous chrétiens, étant rachetés, nous possédons, alors c'est assez étonnant, nous possédons aussi en Christ un sacerdoce royal. Il ne faut pas l'oublier, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, afin d'être sacrificateur pour Dieu. Et là, sacrificateur est au pluriel. Tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Et Christ nous associe à son service. C'est assez étonnant, parce qu'il n'y a que lui qui peut pardonner. Aucun homme de Dieu n'a la puissance de de pardonner. C'est Christ qui pardonne par son sang. Mais dans notre ministère, il cherche donc des hommes, des femmes, des adorateurs qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent aussi. Et quand on prie pour quelqu'un, quand nous sommes associés à Christ dans ce ministère d'intercession. Le Seigneur nous porte devant le trône de la grâce, après nous avoir offert la vie éternelle. Et nous, à présent, nous pouvons porter tout ce que le Seigneur met sur notre cœur d'intercéder pour vous, avec prière et supplication. Donc c'est assez un privilège extraordinaire, finalement. Pourquoi ? Parce que finalement, en Christ, nous avons nous aussi accès au Saint des Saints. Et nous avons la possibilité de parler au Seigneur. Et nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous pouvons venir devant Dieu, parler des gens qui nous sont chers, en utilisant la clé, c'est-à-dire Christ et ce qu'il a fait. C'est au nom de Christ et en raison de son sacrifice que nous pouvons intercéder pour le salut des autres. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes aussi associés dans ce service. Donc c'est pour ça que vous voyez des expressions dans le Nouveau Testament de sacrificateur au pluriel. C'est cela que ça signifie.
C'est important de savoir ça parce que en fait, on vit dans une société où on a tellement l'habitude, ça fait 2 000 ans qu'on est chrétien, et qu'on n'a pas cette culture de la sainteté que les Israélites avaient de par leur rituel que la Bible demandait, quoi. Et je pense qu'on prend un peu à la légère ce côté sainteté de Dieu parfois, parce qu'on est trop habitué, je sais pas.
Oui, parce que c'est très solennel. C'est pas parce que l'accès nous est ouvert qu'on peut arriver comme ça. Donc, on arrive par Christ d'abord, on n'arrive pas tout seul. Donc, on est en Christ.
À l'image d'avant, on n'y va pas n'importe comment.
Tout à fait, absolument.
On y va par Christ, on y va sous l'autorité.
Et c'est pour cela que finalement, tous les peuples de tout temps, partout pris, ont des cultures religieuses, des cérémonies, pour essayer de capter des esprits, et voilà, capter un Dieu créateur. Mais on s'aperçoit que Dieu a fixé, on peut un mot moderne, un protocole très précis, sans lequel les portes restent fermées. Et c'est important d'établir ce protocole, de vraiment cette mise en place préfigurée dans l'Ancien Testament et réalisée pour tous les peuples dans le Nouveau. Et l'Ésaïe 52, hein, le serviteur a été un sujet d'effroi et devient un sujet de pardon, d'aspersion, de joie pour tous les peuples, pour beaucoup de peuples. C'est encore un passage à mettre dans la liste des nations. Dieu dans l'Ancien Testament ne s'occupe pas que d'Israël. Les peuples sont aussi invités.
Avec ce protocole un peu dur, on peut penser que Dieu ne veut pas que les gens s'approchent de lui, tellement c'est restrictif, tellement c'est. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est à cause de notre péché qu'on ne peut pas. En fait, c'est parce que, en fait, si on s'approche, on meurt. Quoi. Sans Christ, sans le sacrifice de Christ, on s'approche comme avant, s'il faisait n'importe quoi.
Et ouvrir ce chemin, il a payé de sa personne. Donc, ça montre bien qu'il veut qu'on s'approche de lui.
Moi, je vois aussi une image, parce que, en tant que chrétien sacrificateur, parce qu'en fait, Aaron, il était dans son service sacerdotal, il était aidé, entre guillemets, par ses fils, les fils d'Aaron.
Ouais.
Ils étaient sacrificateurs, les fils d'Aaron. Et moi, je vois les chrétiens comme étant donc des fils. Nous sommes tous fils. Et c'est pour cela que nous sommes aussi sacrificateurs comme les fils d'Aaron. C'était une préfiguration. Aaron, en fait, était une préfiguration de Christ. dans la mesure où lui, le souverain sacrificateur, et ses fils étaient des sacrificateurs, comme nous, Christ, Dieu est notre Père, en fait, nous sommes ses enfants. Lui, il est le souverain sacrificateur, et nous, nous sommes les sacrificateurs qui l'aidons dans sa tâche de souverain sacrificateur. Vous voyez le parallèle que je souhaite faire.
Bon, si vous regardez l'histoire des fils, oui. Deux fils d'Aaron sont arrivés justement avec un fils étranger et un étranger. Donc, ça a été un moment difficile parce que justement ils ont voulu faire un peu à leur tête.
Comme vous disiez, tout à fait n'importe quoi.
Et pour ajouter ce que Yodid, et je reviens sur Hébreux 10, le protocole, comme tu dis, justement, c'est le cœur sincère et la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et ça, c'est quand même des mots forts, quoi. Ouais. Mais moi, je le comprends bien, c'est une confiance, c'est continuellement ça.
Ben, disons que le cœur est purifié, le cœur, c'est donc le lieu, en quelque sorte, le lieu profond. Il est purifié par le sang de Christ une fois pour toutes, mais le corps, lui, puisqu'il est en contact avec les impuretés, lui, il va être constamment avec les impuretés. Oui. C'est-à-dire la condition d'être continuelle des péchés.
Et la conscience, c'est très facile. En étant sauvé, c'est très facile de savoir si on a une bonne conscience devant Dieu ou pas. Ça, on le fait immédiatement. Et on le voit très bien que c'est un cas concret, c'est une application concrète et pas unique, que c'est continuel.
Je pense quand même que certaines choses nous sont fermées parce qu'il y a plusieurs passages qui disent Dieu dit à Jérémie, dis au peuple d'arrêter de prier parce que j'ai tout. Je ne puis supporter vos sacrifices. Ouais. Donc, même en suivant la marche à suivre, comme il y avait de l'hypocrisie, Dieu dit vos sacrifices ne sortent pas la tête. Ouais. Donc, je pense que quelqu'un qui se dit bon, je peux arriver devant Dieu n'importe où, voilà, et qui joue avec Dieu et se moque de Dieu, je pense pas que ça se passe aussi simplement que ça. Et il peut prier, mais il n'y a rien qui aboutit. Voilà, la Bible dit, élevez les mains pures. Sinon, tout est bloqué. Voilà.
C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux précise avec un cœur sincère.
Oui, j'en ai dit.
Parce que si le cœur n'est pas sincère, effectivement, c'est de l'hypocrisie. Voilà.
Et on peut le ramener aussi au moment de la scène, où les personnes qui sont surtout à ce moment où on rappelle l'œuvre de Christ, ça rajoute un peu un.
Tout à fait.
Normalement, on parle de ce sujet aujourd'hui, parce que hier soir, je disais à Nombre 17 sur la rapport des fils de Corinth.
On en fera une étude de ça.
C'est impressionnant. Le peuple d'Israël s'est révolté contre Aaron.
Voilà.
Mais malgré ça, enfin, ils étaient en train de mourir, et malgré ça, Aaron est allé faire l'expiation pour eux, pour que ça s'arrête.
Oui.
C'est fou pour moi, c'est vraiment une image de Christ, nous qui étions dignes d'être haïs, comme je dis ici. Christ est mort pour nous, nous étions pécheurs, et il a donné sa vie pour nous.
Vraiment, beaucoup frappé, les fils de Corée. Parce qu'après, ça va devenir des musiciens, les descendants vont devenir des musiciens qui vont apporter de la louange. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ce thème des Corées, des fils de Corée, parce que ils étaient mal partis avec leurs parents.
Tu as fait quelques-unes, les Corées.
Sur ces bonnes paroles, nous allons.
Seigneur mon Dieu, merci encore de nous avoir rappelé quelle est l'excellence de ce salut, Seigneur. Quelle perfection et quel amour et quelle grâce tu nous offres, Seigneur. Merci encore pour ton sacrifice à la croix pour nous. Merci de de nous compter parmi ton peuple, Seigneur, et de nous avoir à cœur, de nous porter sur ton cœur. Merci, Seigneur, pour cette description de l'Ancien Testament qui nous fait voir à quel point tu es saint, tu es grand, tu es digne de louange et d'adoration. Et nous te prions, Seigneur, pour que chaque jour nous puissions être conscients de cette sainteté, que nous ne prenions pas les choses à la légère et que nous approchions de toi des cœurs purifiés. Seigneur, vraiment merci pour ce sacrifice parfait. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, en te remettant encore la famille Toledo, Seigneur, pour que tu les relèves, Nadine Martin aussi, et d'autres qui ont des problèmes de santé assez graves, Seigneur, et je te les remets tout particulièrement ce soir. Garde notre retour, Seigneur, et bénis le culte de dimanche prochain. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen.